Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a 100 ans, exactement jour pour jour, le 18 novembre 1922, disparaissait l'écrivain français Marcel Proust à l'âge de 51 ans. Un siècle après sa mort, force est de constater que l'auteur de l'œuvre monumentale À la recherche du temps perdu n'a jamais été autant commenté, traduit, honoré. À l'image de la grande exposition La Fabrique de l'œuvre qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France à Paris jusqu'en janvier prochain, qui propose plus de 370 pièces, manuscrits, tableaux, photos, objets, costumes, un parcours qui n'est pas biographique mais bien littéraire, même si la toute dernière salle est en effet consacrée au point d'orgue, au décès de Proust, comme nous le décrit l'académicien français Antoine Compagnon, un des trois commissaires dans ce petit extrait.
C'est la salle de la ponctuation, la mort de Proust en novembre 22. On suit la chronologie des derniers mois, ici de la vie de Proust. Une lettre de Proust à Rivière d'octobre 22. Une lettre de Gaston Gallimard juste avant la mort de Proust relative à la dactylographie de la prisonnière. Une lettre de Céleste à Robert Proust disant que l'état de santé de Proust est en train de se dégrader. Et puis l'annonce de la mort de Proust dans un petit bleu de Reynaldo Hahn à Robert de Flers. Oui, Proust mort en novembre 22. Le numéro spécial de la NRF d'hommage est publié en janvier 23. Et dans ce numéro d'hommage, tout le monde a écrit. Valérie, Gide, Bergson, ça nous donne une idée de ce qu'était la célébrité de Proust au moment de sa mort. Pour qu'en un mois, la NRF fasse un gros volume d'hommages avec toutes ses signatures. Ne pensons pas que Proust était un inconnu au moment de sa mort. Proust était déjà reconnu à ce moment-là comme le plus grand écrivain contemporain.
Et nous retrouverons Antoine Compagnon et Nathalie Mauriac d'hier, autres commissaires de l'exposition, dans un instant. En tout cas, une première intervention qui nous dit combien Proust était déjà célèbre de son temps et plus encore connu au-delà des frontières françaises, que nous confirme un livre passionnant intitulé « Proust Monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust », une anthologie inédite qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Folio Classique. Bonjour Blanche Cerchiglini.
Bonjour.
Vous êtes l'éditrice de ce recueil de textes choisis, présentés et commentés par vos soins, mais aussi par Antoine Ginesi, Étienne Sautier, Guillaume Lefer et Nicolas Bailly. Un ouvrage précieux qui montre à quel point Proust est universel, mondial, au regard de la réception, des réceptions de son œuvre sur les 5 continents, et ce, dès son vivant jusqu'à aujourd'hui. 83 témoignages, dont une vingtaine d'inédits, qui de Kerouac à Kundera, en passant par Mishima et Murakami, sans oublier Pamuk, l'un des 10 prix Nobel de littérature présents ici, qui s'exprime sur Proust, en bien ou pas forcément, d'ailleurs, nous y reviendrons. Quel est l'idée à l'origine de ce Proust monde, ouvrir les horizons ?
Ouvrir les horizons, très, très clairement, mon envie était de renouveler l'approche sur Proust, de me dire, faisons le bilan, 100 ans après, comment expliquer cette fortune extraordinaire de Proust, qui est encore plus célébrée, encore plus vivant, 100 ans après sa mort, comment le comprendre ? Eh bien, faisons un pas de côté, décentrons notre regard sur Proust, internationalisons Proust et allons voir du côté des écrivains étrangers. Donc avec les collègues et camarades que vous avez cités, nous nous sommes attelés à cette tâche. Nous avons ouvert une carte du monde, comme les généraux avant la bataille, on l'a étalée devant nous et on s'est dit, allons voir comment on en parle, qui en parle, en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Afrique. Est-ce qu'on en parle pareil ? Est-ce qu'on dit la même chose quand on a lu Proust en français dès les années 20 ou quand on l'a reçu plus tard en traduction.
Et effectivement, dans une dizaine de sections thématisées sont ordonnés ces témoignages. D'ailleurs, sur quels critères ont été choisis ces écrivains, entre guillemets, étrangers ?
Alors, le critère fondamental, c'était, on s'est donné une méthode, on aurait pu s'en donner une autre, hein, mais la méthode, c'était ce sont tous des écrivains qui ne sont pas de nationalité française. Alors, bien sûr, il n'est pas question ici de passeport, il est question de culture. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui n'ont pas lu Proust, qui n'ont pas reçu Proust comme nous, français. C'est-à-dire des auteurs qui ne baignaient pas dans la même culture que la nôtre et qui n'ont pas eu non plus cette sorte de chape de plomb que l'on peut avoir vis-à-vis de Proust. Pour eux, ce n'est pas tout à fait le grand homme, la statue du commandeur, comme il peut l'être pour un français. Donc ce qui m'a frappé, c'est que ces auteurs ont une approche beaucoup plus libre, beaucoup plus un petit peu provocante parfois. Et vous l'avez souligné, nous ne souhaitions pas faire un hommage et un panégyrique. Donc on a aussi une section anti-Proust. Ceux qui se disent « c'est trop long, il y a trop de duchesses, ça m'ennuie, j'ai pas le temps pour ça ». Souvent quand même, ils y reviennent hein, d'une autre façon. Mais voilà quel était le critère. C'était cette idée que quand on baigne dans une autre culture et une autre langue, on n'appréhende pas l'auteur de la même façon.
Donc dans leur langue maternelle ou dans leur pays d'origine, sachant qu'à ce jour, et c'est ce que nous rappelle une constellation de Nicolas Ragoneau, reproduite ici, Proust est traduit donc à ce jour dans 35 langues. Ça a commencé par l'espagnol dès 1920, ensuite évidemment l'anglais, le russe, le polonais, et puis les plus récentes, le galicien, l'espéranto en 2019 et le maltais. Et d'ailleurs aussi, signalons Guy Régis Junior, qui depuis 2012 travaille à une traduction en créole haïtien. Et visiblement, on a l'impression, en tout cas à vous lire, Blanche Cerqueglini, qu'il jubile. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, absolument. J'ai eu la chance de le rencontrer et d'échanger avec lui pour parler de ce projet formidable. Donc lui-même est de langue maternelle créole. Il a appris le français dans les livres à la bibliothèque, donc aussi avec Proust. Pour lui, Proust ne lui pose aucune difficulté. Il a vraiment tout de suite baigné dedans. Et donc, il traduit Proust, il le dit lui-même, avec une totale jubilation. Parce que pour lui, il est dramaturge hein, et romancier, mais surtout homme de théâtre. Pour lui, la langue de Proust, elle est orale. Elle passe parfaitement bien à l'oral. Et donc, il s'est attelé à cette mission qui pourrait nous sembler incroyable, c'est-à-dire de créoliser un auteur qui nous semble aussi français que Proust, dans une langue dont l'orthographe n'a été fixée que dans les années 80, qui subit les influences d'autres langues que le français. C'est un extraordinaire métissage, la langue haïtienne. Et ça marche. Et ça marche, et c'est formidable.
Métisser, créoliser Proust, quel beau projet. Alors dans les sections suivantes, on apprend par différents écrivains à quel point Proust a été beaucoup lu en Amérique latine. Et puis dans le chapitre « Face à l'histoire », là on découvre un pan tout à fait bouleversant de l'impact de cette œuvre dans les camps pour certains prisonniers. Et l'un des textes vraiment les plus poignants, de mon point de vue, c'est celui de l'auteur russe Varlam Shalamov, avec cet extrait que vous reproduisez ici, des récits de la Kolyma en 1966. Est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, Blanche Cerqueglini, nous rappeler la teneur de ce récit ?
Alors, toute cette section est très, très importante pour moi. C'est l'aspect que je dirais thérapeutique de Proust. La fonction de consolation, qui est une fonction traditionnelle dans la littérature. C'est-à-dire que Proust nous accompagne tout au long de la vie. Et l'œuvre de Proust est là dans les moments difficiles, douloureux de la vie. Probablement parce que Proust était un homme qui souffrait, qui a souffert et qui nous transmet cette souffrance. Il se met à nous, face à nous, et il nous autorise aussi à souffrir avec lui, à compatir et à exprimer notre douleur. Donc effectivement, dans cette section, le très beau texte de Shalamov et d'autres aussi qui ont vécu les camps, le goulag, mais aussi Chapsky, un auteur auteur qu'on connaît peut-être un petit peu moins, Joseph Chapski, qui était polonais, qui était enfermé et qui a fait des conférences à ses camarades par cœur. Il se souvenait de la recherche et il l'a transmise à ses camarades lors de conférences. Semprun aussi, Georges Semprun, se souvient que, vous savez, il a mis 20 ans avant de pouvoir raconter son expérience dans les camps nazis, et il se souvient que Proust l'a accompagné. Et donc il y a cette fonction de soutien moral qui, là aussi, peut paraître étonnant. Rien de plus éloigné que l'univers proustien, la plaine Monceau où il vivait, le Faubourg Saint-Germain, par rapport à l'univers concentrationnaire. Et bien précisément, Proust nous raccroche à l'humanité, à la civilisation.
Et on a l'impression que c'est par le thème principal, on va dire, de la recherche, la mémoire, justement, que ces auteurs peuvent se raccrocher. Parce que c'est en se remémorant leur propre lecture de Proust que Georges Semprun, quand il va déporté dans ce camp de Buchenwald, où il va passer quelques temps, que dans le convoi, il se rappelle tout l'univers proustien et que ça le rattache à la vie de la même façon que Chalamoff nous raconte que ce livre qu'il avait à ses côtés, qu'il lisait quotidiennement le jour où il disparaît parce qu'il lui a été volé, il s'écroule presque parce que ça le rattachait à la vie. Donc ce thème de la mémoire, de l'enfance comme territoire perdu, peut-être aussi comme territoire paradisiaque. De façon générale, Blanche Terquet-Glinic, est-ce que vous avez réussi à identifier ce qui revient dans les commentaires de ces auteurs du monde entier?
Alors, ce qui est fascinant, c'est que les premiers passeurs de Proust, qui sont d'ailleurs assez souvent des passeuses, Edith Wharton pour les États-Unis, Virginia Woolf pour la Grande-Bretagne, ça, ce sont les premiers et premières Benjamin pour l'Allemagne, qui ont introduit et transmis
Stéphane
Proust. Zweig, bien sûr, exactement, en 1925, donc 3 ans après la mort de Proust, il écrit un texte dans un journal viennois fondamental où il explique tout. Il dit qu'il n'y a pas deux Proust. Et que le Proust avant Proust, c'est déjà du Proust, et qu'il ne faut pas le réduire à son aspect mondain, et que bien sûr, dans toute sa vie mondaine, il se nourrissait de ses expériences qu'il allait ensuite retranscrire dans son œuvre, les conversations de salon dont il ferait ensuite la satire. Donc oui, le thème de la mémoire est absolument transversal. Le thème de l'enfance, bien sûr, je crois que c'est cette faculté qu'a Proust d'exprimer, de dire mieux que nous, des expériences que nous vivons, que nous éprouvons. Et donc, c'était tout à fait émouvant pour moi de voir que Wharton, quand elle découvre en français Proust, elle identifie tout de suite l'épisode de la Madeleine. Mais c'est formidable, parce que pour nous, ça nous paraît une banalité, la Madeleine. C'est même un petit peu cliché. Mais pour elle, elle en fait une lecture forcément naïve, une lecture première. Et c'est très émouvant dans ces textes de voir des gens qui découvrent, qui ont le bonheur, le plaisir de découvrir Proust pour la première fois. Comme je l'espère, nos contemporains, des lecteurs, des jeunes lecteurs ou moins jeunes, auront le plaisir de le découvrir.
Alors, on peut citer encore le japonais Mishima, la sud-africaine Nadine Gordimer. Et puis donc, parce que l'honnêteté intellectuelle de ce recueil est à souligner, vous proposez donc également des textes d'auteurs qui sont un peu critiques, moins enthousiastes. On y retrouve Mario Vargas Llosa et d'autres même qui sont plus dans le rejet. Des anti-Proust, on dirait le polonais Gombrowicz, l'argentin Borges, le britannique Lawrence. Mais finalement, parler de Proust pour le critiquer, c'est quand même reconnaître son importance, non ? Il y a quelque chose de très ambigu.
C'est flatteur, absolument. Proust, je crois, est incontournable au sens propre du terme. C'est-à-dire, d'une part, on ne peut pas en faire le tour. C'est ce que montre cette anthologie. Et c'est ce que montre aussi cette immense actualité autour du centenaire. Il y a toujours encore des choses à dire sur Proust. Et Proust, on ne peut pas passer à côté, ni comme lecteur, ni comme auteur. Alors, bien sûr, il y a un côté inhibant, voire castrateur. C'est la dernière section de cette anthologie,
comment écrire après Proust.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il a tout dit et il l'a dit tellement mieux que nous. Eh bien ça, c'est un modèle pour les écrivains. Et bien sûr que tout en anti-modèle est un modèle. Par exemple, Philip Roth, j'étais absolument persuadée qu'il avait parlé de Proust, parce que je me disais que son œuvre autobiographique déguisée, autofictionnelle, son héros, Nathan Zuckerman, n'était quand même pas si éloigné du narrateur. Et puis son traducteur, Philippe Jaborski, il me dit non, pas du tout, il n'en avait jamais parlé. Et puis il a toujours dit qu'il n'était pas allé au bout, qu'il avait lu que les premières pages. Et puis il affirme, mon Proust à moi, c'est Céline. Mais voilà, mon Proust à moi. Il faut absolument se situer face à Proust. Et en effet, être contre Proust, c'est être encore avec.
Oui, parce qu'il y a toujours aussi le besoin de se situer par rapport à cet écrivain. Et c'est des auteurs qui ont un certain ego. Donc mettre Proust au-dessus, en haut du Panthéon, évidemment, ça veut dire un peu réduire leur place dans la littérature. Néanmoins, beaucoup d'écrivains s'amusent avec Proust. Il y a cette partie qui concerne les pastiches, avec par exemple l'Algérien Kateb Yassine, le Turc Orhan Pamuk, et puis n'oublions pas la section qui donne la parole aux réalisateurs et aux metteurs en scène qui ont adapté ou qui ont été inspirés par Proust. Visconti, qui avait le projet, qui n'a jamais réellement abouti. Il a fallu que ce soit d'ailleurs d'autres réalisateurs, Schlondorf de l'Allemagne, Raoul Ruiz. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point même la cinématographie étrangère est inspiré par Proust.
Oui, et là aussi, on n'en a jamais fait le tour. Ça nous a frappé de voir à quel point il y a eu de nombreux projets cinématographiques qui n'ont pas abouti. Le scénario Proust de Pinter. Pinter dit c'est la plus belle année de ma vie que j'ai passée à travailler sur Proust et ça n'a pas abouti. Le film de Visconti n'a pas abouti. Oui, bien sûr. Le film de Raoul Ruiz est magnifique. Le temps retrouvé. Sinon, c'est une œuvre qui excède la représentation. Il faut évidemment revenir à la lecture. La lecture orale, ça c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup et il y a tout un renouvellement de la transmission de la littérature par l'oralisation, par des lectures expressives et on redécouvre l'humour de Proust. Et ça c'est formidable. Donc les pastiches, oui, surtout les réécritures qui transposent des scènes proustiennes dans d'autres univers culturels. Kateb Yassine, en effet, que vous avez cité, reprend le début de Combray, le baiser du soir, le deuil de la mère qui va quitter l'enfant et ce sommeil qui est comme la mort et que l'on redoute. Il le transpose dans son contexte algérien et il rappelle que son père a décidé de le mettre à l'école française et que c'était pour lui une trahison terrible par rapport à sa mère qui ne parlait pas le français. Donc la découverte de la langue française et l'abandon de la langue arabe était comme une manière de couper deux fois le cordon ombilical et c'était une véritable souffrance qu'on peut qualifier de proustienne. Et puis Orhan Pamuk que vous avez cité du côté d'Istanbul. Alors là, dans ce roman,
Le Livre Noir,
il réécrit les passages de la prisonnière où Albertine est enfermée par le narrateur. Et même son personnage s'appelle Albertine. Et il invente aussi un narrateur proustien, obsédé par Proust, et qui recherche cette femme qui a réussi à s'échapper et qui s'est enfuie.
Ce qui est formidable quand même avec tous ces témoignages et tous ces textes, dont je rappelle encore une fois, certains sont inédits et traduits pour la première fois en français, c'est dire l'importance de ce Proust monde, c'est de voir aussi cette communauté de lecteurs internationaux qui, quelle que soit son origine, sa culture, l'espace-temps où on vit, se retrouve autour de Proust. Et d'ailleurs, on apprend qu'il y a des clubs dans le monde entier, c'est vrai.
Alors ça, c'est frappant, c'est absolument exact. Bien sûr, la Société des Amis de Marcel Proust en France, mais je crois que la Proust-Gesellschaft allemande a un tout petit peu précédé, en tout cas la même année, à quelques mois près. Et puis, il y a des rues qui sont nommées Marcel Proust dans le monde entier. Alors là, c'est touchant. On n'est pas loin du fétichisme, tout de même. Notamment, je crois qu'à New York, il y a une certaine mode. La grande librairie française, formidable, s'appelle Albertine. Il y a un peu de snobisme, sans doute, c'est-à-dire on fait la partition entre ceux qui l'ont lu, ceux qui ne l'ont pas lu, ceux qui en sont, ceux qui n'en sont pas. C'est normal, parce que Proust, c'est aussi une expérience. Et bien sûr, ça prend du temps de lire Proust, de le comprendre, de se l'approprier. Donc ça me semble tout à fait normal, quand on a fait cette expérience, quand on est allé au bout, de vouloir la partager. Et moi, je trouve ça formidable. Et je pense que Proust est un auteur qui se partage et qui donne envie de partager son expérience et de la faire découvrir à d'autres que nous.
Et à votre avis, Blanche Cerqueglini, est-ce que la lecture de ces écrivains étrangers peut justement aussi modifier notre propre regard sur Proust ? D'une certaine façon, peut-être le faire descendre un peu de son piédestal ou de ce côté inaccessible, de ce côté snob et poussiéreux, et nous rappeler l'essence du texte.
Absolument, c'était mon ambition, démocratiser l'accès à Proust. Si cette anthologie pouvait être mise entre les mains des plus jeunes, j'en serais absolument ravie. Pour moi, je l'ai conçue comme une porte d'entrée dans la lecture de Proust. D'abord parce que Proust, on peut le lire dans n'importe quel sens, on peut le lire par épisode, comme cette anthologie qu'on peut lire de manière fragmentaire et puis reposer et puis y revenir. C'est le plaisir d'une anthologie. Proust fonctionne aussi comme ça. Il ne faut pas avoir peur de commencer par Le Temps retrouvé, si ça nous chante.
Le dernier volume,
pourquoi pas, puis de revenir en arrière ensuite, ou de lire certains épisodes. C'est tout à fait autorisé. Il faut s'autoriser à le faire. Et ça, c'est la force de Proust. Cette lecture par épisode, c'est une lecture qui correspond à notre temporalité. On y consacre 10 minutes dans sa journée et quel enrichissement! Et puis on continue le lendemain, et puis la semaine d'après, et puis on partage ses lectures avec ses amis sur les réseaux sociaux. Et Proust se prête très facilement et magnifiquement à la citation, à l'évocation de figures, de scènes, la scène de la Madeleine, la sonate de Vinteuil, le petit pan de mur jaune. C'est très graphique, c'est très visuel. Et donc ça donne envie d'en parler et de le partager.
Alors avant de nous quitter, je vous propose de nous rendre à la BNF pour cette grande exposition Proust et la fabrique de l'œuvre, qui d'ailleurs aujourd'hui, vendredi, en ce jour précis des 100 ans de la mort de l'écrivain le 18 novembre 1922, est ouverte gratuitement au grand public. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas à Paris, je vous emmène sur place avec deux des commissaires de la manifestation. D'abord l'académicien français qui explique dans quel esprit a été conçue l'exposition, Antoine Compagnon.
D'abord, je crois qu'on voulait faire une exposition nouvelle, parce que c'est la 4e exposition Proust à la Bibliothèque nationale et c'est la 3e de l'année. Donc il fallait qu'elle soit absolument différente de toutes les expositions déjà faites sur Proust. Ensuite, ce n'est pas une exposition sur la vie de Proust. La vie de Proust est finalement mentionnée que quand c'est nécessaire. Par exemple, au moment de sa mort, puisqu'elle intervient au milieu de la rédaction de la recherche du temps perdu. Donc c'est une exposition sur l'œuvre et je crois que ça n'avait jamais été fait. C'est donc un parcours, une promenade dans l'œuvre, dans les titres que l'on connaît, dans les épisodes que l'on connaît, mais à chaque fois en donnant la profondeur. D'où viennent ces épisodes? Comment ils ont été échafaudés? À travers quelles étapes? C'est compliqué, la genèse de ce grand roman. C'est aussi un roman qui est inachevé, mais la volonté, c'était d'expliquer ça le plus simplement possible. Donc je crois que le visiteur qui connaît à peine Proust ne sera pas perdu. Il sera heureux de voir de très beaux manuscrits, mais le spécialiste de Proust, lui, pourra déchiffrer ses manuscrits. Il pourra passer une heure devant chaque page qui est exposée. Et puis, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'objets qui n'avaient jamais été montrés, hein, certaines photographies d'amis de Proust, de proches de Proust, certaines œuvres que l'on ne connaissait pas. Donc beaucoup de nouveautés et une exposition qui peut être lue, me semble-t-il, à différents niveaux. On peut faire un parcours simple, revenir, parce que c'est assez circulaire, et faire un second parcours beaucoup plus prolongé et beaucoup plus riche.
Et justement, Nathalie Mauriac d'hier nous décrit ce parcours et les grandes étapes de cette exposition, La Fabrique de l'œuvre.
Alors, le visiteur est accueilli par une animation qui lui montre la rédaction de la première phrase de La Recherche du Temps Perdu. D'abord, dans une dactylographie que Proust corrige en 1910 ou 11, et où apparaît la fameuse phrase « Longtemps, je me suis couché de bonheur », puis sur les placards d'imprimerie où la phrase est imprimée, Proust la biffe, la réécrit, biffe sa réécriture et finalement reprend la phrase « Longtemps, je me suis couché de bonheur », comme s'il avait besoin de l'écrire vraiment. Ça, c'est pour accueillir le visiteur. Ensuite, le visiteur qui ne connaît pas bien Proust trouvera l'épisode de la Madeleine, qui est l'épisode le plus célèbre de La Recherche du Temps Perdu. et dont nous montrons que la genèse a été longue, puisque Proust a commencé par évoquer du pain rassis, puis du pain grillé, c'est un petit peu plus noble, de la biscotte, et finalement la fameuse petite madeleine qui apparaît tardivement. Puis nous détaillons aussi la genèse d'Allons des jeunes filles en fleurs, c'est encore un temps fort de l'exposition, puisque nous montrons une trentaine, peut-être même un peu plus, planches, qui sont ces grands manuscrits d'Allons des jeunes filles en fleurs. Un autre temps fort, ce sont toutes les toiles qui parsèment l'exposition. On a de grands chefs-d'œuvre, on a de très beaux Monet, on a un Turner, l'unique Turner du Louvre. On a le jet d'eau d'Hubert Robert. On a plusieurs très belles toiles de Vuillard, dont une vue du métro en 1917, pendant la guerre. Alors, un autre temps fort, c'est bien sûr toutes les dernières salles qui mettent l'accent sur l'inachèvement de la recherche du temps perdu, où on observe le développement très important de la série des Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre 1, Sodome et Gomorre 2, Sodome et Gomorre 3, Sodome et Gomorre suite, avec tout l'épisode de la fuite et de la captivité, de la fuite, de la mort du personnage d'Albertine. Est-elle lesbienne? On ne saura jamais. Avec l'homosexualité, bien sûr, du baron de Charlus, jusqu'à la résurrection du temps retrouvé, où là, on retrouve à la fin un peu de la clarté du début avec les épiphanies de l'adoration perpétuelle et à nouveau une animation, cette fois-ci, de la dernière phrase de la recherche du temps perdu, qu'on peut suivre dans ces méandres et on devine la complexité du travail mental qui avait lieu à chaque fois que Proust prenait la plume et ne cessait de se corriger. Ce très grand écrivain ne cessait de se corriger, d'amplifier ses phrases, d'aller, comme il disait, d'aller plus loin, jusqu'au mot fin, qui n'est pas vraiment la fin, parce qu'à peine l'a-t-il écrit, qu'il écrit encore pour corriger ce qu'il vient d'écrire.
Voilà une brève immersion dans cette exposition, la fabrique de l'œuvre que vous avez vue, sans doute, Blanche
Cette
Artiglini.
Exposition est fascinante et en effet, elle est très pédagogique. Je crois que c'est là aussi une très très bonne porte d'entrée dans l'œuvre, surtout pour ceux qui n'ont pas encore osé l'aborder, parce qu'elle permet de voir ce que c'est qu'un grand écrivain. Un grand écrivain, c'est quelqu'un pour qui l'œuvre est tout. Il a consacré toute sa vie à son œuvre. Son œuvre, c'était sa vie et inversement, et on le voit revenir, réécrire, corriger sur épreuve, recorriger, ajouter les paperoles et faire de toute sa vie, mettre toute sa vie dans son œuvre et la transfigurer et en faire le chef-d'œuvre que l'on connaît. Et c'est ça qui nous touche et c'est ça qui nous émeut. Cet écrivain qui est à ce point collé, en prise avec son œuvre, avec le travail. C'est ça, un écrivain au travail.
Et une exposition circulaire comme le livre que vous nous proposez aujourd'hui, Blanche Artiglini, Proust Monde, qui ouvre justement les portes à ce monde, à cette littérature étrangère. Et même si ce n'est jamais fini, comme nous le disait à l'instant Nathalie Mauriac d'hier, nous devons hélas nous arrêter, nous ici. Mais pour prolonger cette émission spéciale, il reste un nombre formidable de livres à découvrir, avec en tête évidemment ce Proust Monde que vous éditez dans la collection Folio Classique chez Gallimard. Mais on paraît également et le catalogue de l'exposition La Fabrique de l'œuvre et Une vie de lettres et d'images de Pedro Correa do Lago, qui est ce collectionneur brésilien qui partage dans ce très beau livre les 450 documents qu'il a acquis depuis plus de 40 ans. C'est vraiment un cadeau avant Noël,
document
ce beau livre.
Document inédit, c'est extraordinaire. Et là aussi, c'est un Brésilien amoureux de la France, francophone, francophile, qui là aussi a dédié, a consacré toute sa vie à Proust. Et c'est fascinant, c'est merveilleux. Et c'est en effet une grande chance qu'il partage avec nous sa collection personnelle.
Et n'oublions pas la réédition en poche, toujours en folio, de Proust, Prix Goncourt, une émeute littéraire de Thierry Lager, que nous avions reçue au moment du centenaire de ce prix pour les jeunes filles en fleurs, ainsi que l'incontournable biographie de Marcel Proust en deux volumes par le maître à tous Jean-Yves Tadier. Merci encore d'être
Merci beaucoup.
Venu au micro de RFI en cette journée exceptionnelle.
Bon anniversaire à Proust et bonne lecture à tous.
Qui marque ce centenaire de Marcel Proust. Merci encore.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.